Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Le UK qui bascule dans un monde un peu incertain. Le budget de Liz Truss a emmené le taux à 10 ans britannique, le gilt, pratiquement au niveau de l'Italie. À plus de 4,5%, la livre s'effondre. On commence à parler des Trussonomics pour qualifier cette dérive budgétaire. Et donc, on voit que l'incident de marché ou le stress de marché n'arrive pas qu'aux pays émergents, mais également à des pays riches. Et ce qu'il faut voir dans le Royaume-Uni, un cas d'école pour d'autres pays européens éventuellement. Je proposerai deux lectures pour le budget 2023. La première serait de dire que c'est une fuite en avant des dépenses, des déficits, des dettes, avec un quoi qu'il en coûte sans fin qui nous met sur une trajectoire britannique. L'autre lecture considérerait que c'est une bonne stratégie qui consiste à amortir la crise que nous traversons afin d'éviter un vrai fiasco économique et social qui nous coûterait à terme encore plus cher. Voilà, on posera la question dans ces termes-là. La Banque Centrale Européenne, la Banque de France, considère qu'on en fait trop pour la demande, que ça nourrit l'inflation. Sous-entendu, peut-être que les politiques budgétaires devraient être recalibrées un peu plus du côté de l'offre et des entreprises. C'est une position inattendue de Philippe Lane, le chef économiste de la BCE. Il se déclare dans un journal autrichien plutôt favorable à des hausses d'impôts sur les hauts revenus et les fameux super profits qu'à des politiques budgétaires en dérive en mode no limit. Et puis il y a cette passe d'armes, ce courroux de Bruno Le Maire à l'égard du MEDEF. Quand le MEDEF dit qu'il veut moins d'impôts de production, mais aussi moins de déficit, mais aussi une réforme de l'État, et qu'il ne veut pas entendre parler de la réforme des retraites, Bruno Le Maire s'énerve, s'agace, considère que c'est un peu fort de café, on ne peut pas vouloir tout et son contraire au même moment. Philippe Manière, bonjour.
Bonjour.
Président de VSLIS Communication, vous avez publié Le Pangolin et l'ISF, quand le monde d'après nous rend tous fous aux éditions de l'Observatoire. Sylvain Réby, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Président d'Orientis, l'été Cousmi, Xavier Timbaud, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Directeur principal de l'OFCE. Avant l'émission, ils m'ont dit que mes sujets étaient pourris, mais on va quand même en parler.
Pas du tout. On a dit que c'était des très bons sujets. Oui. D'ailleurs, c'est nous qui les avons choisis.
Si je vous dis, je vais droit au but, ce qui se passe au UK, c'est une répétition générale de ce qui peut arriver à d'autres pays dont nous.
Bah oui, bien sûr.
Alors, ça pourrait être une répétition générale de ce qui peut arriver dans certains pays dont nous. Ça peut être aussi la continuation, les conséquences de la stratégie britannique d'isolement, de Brexit, qui se retrouve dans un monde compliqué, à avoir peu de partenaires avec qui exercer de la solidarité, qui n'a pas la taille critique et qui a fait le mauvais choix. Ça peut être ça aussi.
Oui, mais enfin là, l'élément déclencheur de la très forte hausse du gilt, donc l'obligation souveraine britannique et de l'effondrement de la livre, c'est un choix budgétaire délirant. Alors, quand on va trop loin, alors on ne sait jamais quel est le trop loin, la limite okay. du trop loin, mais un choix budgétaire délirant qui fait que là on se dit ouf, tous aux abris.
Ok, effectivement, c'est
et
un choix.
Et le choix budgétaire délirant, il y en a d'autres qui en font aussi.
Alors, c'est un choix budgétaire effectivement délirant. Alors, il faut quand même le comparer par rapport aux autres. Là, le Royaume-Uni serait en position de mettre son déficit public en 2023 à 9% du
c'est
PIB.
C'est ça.
Ce qui est quand même beaucoup plus que bien d'autres.
On est d'accord.
Y compris l'Italie. Hein,
je rappelle,
on fait souvent la comparaison entre l'Italie et le Royaume-Uni. La situation budgétaire de l'Italie n'a strictement rien à voir. La dette publique italienne est élevée, mais la situation budgétaire de l'Italie n'a rien à voir. L'Italie n'est pas très loin d'un équilibre budgétaire.
Elle est en excédent primaire, l'Italie.
Excédent primaire, ouais. Voilà.
Non, mais c'est très vrai.
Donc c'est une énorme différence.
Oui, oui. Je compare pas les deux, d'ailleurs.
Effectivement, dans ce sens, on peut lire ça comme une limite à ne pas franchir. Vous avez peut-être vu ce matin, le Fonds monétaire international, par la voix de son économiste en chef, a attensé le Royaume-Uni en lui disant de revoir son plan budgétaire. Alors oui, quand le FMI vous demande de revoir votre plan budgétaire qui a été décidé en urgence, puisque Liz Truss est arrivé très rapidement, ça s'appelle un mini-budget, c'est pas une politique budgétaire complète, c'est vraiment un plan d'urgence qui a été mis en place, avec en plus le Parti travailliste qui est aujourd'hui donné très largement en tête dans les sondages. Effectivement, on a la combinaison d'une situation politique et économique et internationale qui fait que, oui, la défiance, la distrust s'impose aujourd'hui sur le Royaume-Uni. Et effectivement, ça montre qu'il faut manier avec précaution cette politique économique aujourd'hui.
Ah oui, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une crête. Elle n'est pas sans limite.
Voilà, on est sur une crête et il faut garder la confiance tout en étant le plus proactif possible. On va en reparler. Mais effectivement, garder la confiance, c'est essentiel. Parce
et ça
que
va nous...
ça, sinon, ça peut déraper.
Ça va nous conduire à mes deux lectures possibles du budget français. On avait eu à une époque cette doxa, il ne fallait pas dépasser 90% de dette publique, sinon on était tous morts. Bon, cette idée s'est totalement écroulée, mais il y a un moment où on la touche, la limite. Mais et évidemment. Là, le UK a basculé dans quelque chose qui est incertain depuis 24 heures.
Évidemment. Non, mais moi, je reprends la question que vous posiez, Nicolas. C'est, à mon avis, on vit quelque chose qui est assez précurseur de ce que vont vivre les autres. Pour une raison qui est très simple, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Sauf qu'on a l'euro.
On a l'euro, donc effectivement, nous, on peut faire...
Plus personne ne veut le quitter, d'ailleurs.
On peut faire le passager clandestin, alors que le Royaume-Uni, et c'est le choix qu'ils ont fait, qui est respectable à certains égards et un peu étonnant à d'autres, ils ont décidé d'être tout seuls. OK, ils sont tout seuls. Donc effectivement, ils n'ont pas la protection que donne l'euro. Mais en même temps, à l'abri de l'euro, nous, je vous rappelle quand même que depuis 20 ans, on a fait énormément de bêtises qui, si on n'avait pas eu l'euro, nous auraient obligés à dévaluer.
On ne les aurait pas faites.
Mais on ne les aurait pas faites.
Certaines, on les aurait pas faites.
Évidemment, on les aurait pas faites. Donc, si vous voulez, il y a l'avantage, il y a les avantages et les inconvénients. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le questionnement qu'on a ce matin tous ensemble, c'est à quel point les gens sont surpris de voir arriver ce qui devait arriver. C'est comme l'inflation. Vous avez la BCE qui inonde de liquidités sans limite en disant « Oui, mais là, c'est pas comme d'habitude. » Vous avez des dingues chromés qui disent « De toute façon, maintenant, c'est différent, nouvelle théorie monétaire. » Les types sont planqués maintenant. On les voit plus, ceux qui plaidaient la nouvelle théorie monétaire et qui disaient qu'on verrait pas l'inflation, qui tenaient le haut du pavé il y a seulement 18 mois. Disparu. Là, maintenant, il se passe quelque chose, c'est que quand on en s'endette trop, vous allez rire, on se rend compte qu'on commence à émettre des signaux qui sont vus comme ceux qui investissent dans votre dette comme étant inquiétants. Et donc, on doit payer plus cher la dette et peut-être même qu'au bout d'un moment, les gens voudront plus vous prêter. Mais enfin, franchement, ce qui est surprenant, c'est que ça ne soit pas arrivé avant. Ça fait 10 ou 15 ans que les gens sérieux disent « Attention, on se surendette. Attention, au bout d'un moment, ça coûtera plus cher. Attention, au bout d'un moment, on ne voudra plus nous prêter. » Et pour revenir
sur
ce que vous
disiez... Pour des comptes, Banque de France, mais c'est une musique
mais
qui
écoutez,
est venue...
Mais écoutez, en deux jours, on a eu quand même Moscovici et Villeroy-Calo, qui ne sont pas des ultra-libéraux patentés, qui ne sont pas des gens qui sont à droite de la droite, qui ne sont pas des orthodoxes furieux. Enfin, ils sont sérieux, c'est des gens très remarquables dans leur camp, naturellement. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas affaire à des dingues qui disent il faut pas dépenser, etc. Ils ont été, moi, François Villeroy de Galo, je l'ai connu, il était directeur de cabinet de Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn a eu la chance d'avoir une excellente conjoncture, mais enfin c'était pas quelqu'un qui serrait la vis, il n'était pas connu pour serrer la vis. Moscovici, c'est pareil, il vient quand même d'un camp où Keynes a plus les faveurs des militants que Hayek, pour dire les choses. Eh bien, à l'arrivée, ces deux personnages qui ont atteint, à mon avis, de manière très légitime, des positions éminentes et qui disent l'un et l'autre, depuis un moment déjà, attention les gars, on va dans le mur. Et je finis juste sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le FMI. Oui, vous avez raison, on oublie toujours que le FMI, c'est pour tout le monde. On se dit, ouais, bah, y a les Grecs qui puent du bec, qui font de l'ail et de la feta, donc eux, c'est normal, ils font faillite. Nous, c'est différent, on fait des Airbus, des machins, ça. Non, regardez ce qui s'est passé dans les années 80-90. Le FMI est venu au chevet du Canada et du Royaume-Uni. Le FMI n'est pas réservé aux gens du Sud. Le FMI, ça peut nous tomber dessus. Alors, j'espère que ça n'arrivera pas, naturellement. Je ne dis pas que ça arrivera demain. Je dis que ce qu'on voit se cristalliser depuis 6 mois, c'est exactement ce que n'importe qui d'à peu près sérieux pouvait pronostiquer. Pardonnez-moi de le dire, moi je le fais depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça passe plus.
Alors, c'est le au
parce
bout,
qu'on
c'est
dépense
lequel
tellement,
c'est...
on s'endette tellement que les gens disent, flûte, ce gars-là, peut-être un jour, il remboursera pas. Donc, coût de la dette qui explose et un jour, problème de financement.
Le problème, c'est le au bout d'un moment. Personne n'est capable de dire pour quel pays, quel est le moment pour chaque pays.
Non, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y en a toujours un, et y compris dans le Nord, confère Royaume-Uni et Canada.
Bon, mais ça fait des années que j'entends cette même histoire.
Et voilà, on est tellement habitués.
Ça finira par être vrai.
Non, mais on est tellement habitués. Ça finira par être vrai.
La musique de la Cour des comptes, il a raison, Sylvain.
Non,
la musique de la Cour des comptes de la Banque de France.
J'entends cette même histoire que.
Donc on peut dépenser son.
On va dans le mur. Je n'ai pas dit qu'on pouvait dépenser ce qu'on voulait. Je dis simplement qu'on nous compare toujours. Quand la Grèce arrive au bord du gouffre, on dit mais ça peut arriver à la France. Quand l'Italie dépense trop, on dit mais ça peut arriver à la France. Et en fait, ça n'arrive pas à la France pour une bonne raison, c'est que la France est un pays solide. Que la France est un pays gouverné avec un État fort. Que la France a une industrie, contrairement au Royaume-Uni qui n'a rien. Que de la finance qu'ils n'ont plus
et
d'ailleurs aujourd'hui.
C'est absolument faux, Sylvain. Je vous interromps. La France a moins d'industrie dans son PIB que le Royaume-Uni et beaucoup moins que l'Italie.
Alors là, je serais surpris.
Beaucoup moins que la Suisse. Beaucoup moins.
En termes de poids d'industrie dans
mais
le PIB, je crois que Philippe a raison.
Alors
je serais heureux que
ils n'ont pas que de la finance.
Heureux que vous me citiez des entreprises industrielles anglaises ou du Royaume-Uni qui existent ailleurs que dans leur propre pays.
Par contre, il y a beaucoup d'industries à l'étranger qui produisent aux États-Unis. C'est ça l'essentiel. Vous savez que la nationalité, c'est du second ordre. Hein.
Bon, alors en tout cas,
il y a beaucoup d'automobiles encore sur le sol anglais.
En tout cas, je ne prévoit absolument pas ce type de problème pour la France. Encore une fois, on a un pays qui est très riche, finalement. On a beaucoup, beaucoup de richesses et personne n'imagine que la France puisse faire défaut un jour ou l'autre. C'est tout ça. Est-ce qu'on imagine qu'on peut faire défaut ? La réponse est non. Et les marchés l'ont prouvé. C'est-à-dire que les marchés ont toujours raison. À aucun moment, la dette française n'a été mise en cause. À aucun moment, on a craint que l'écart entre l'Allemagne et la France, c'est ça la base, soit trop.
Pour l'instant,
important.
Non, et c'est bon, il y a eu une petite tension.
Et depuis que je viens à cette émission, ça fait 14 ans à peu près, j'entends les mêmes histoires, les mêmes craintes, et ça ne se produit jamais, et je pense que ça ne se produira jamais.
L'OAT française a été chiffrée à 2,5 dans le budget pour le 10 ans. On est à 2,84, mais c'est pas en 3 jours, parce qu'on est passé de 2,5 à 2,84, qu'il faut tirer une conclusion sur 12 mois. Quand vous entendez Xavier Timbaud, Sylvain Ribé dire « jamais la France ne fera défaut ». Sous-entendu, ce qui se passe au UK, c'est pour le UK. Ce qui se passe en Italie, c'est pour l'Italie. Arrêtez les comparaisons.
L'Italie ne fera pas défaut non plus, attendez.
Non, mais l'Italie...
C'est toujours la même histoire, vous repartez sornettes de dire « ils vont faire défaut ». L'Italie ne fera pas défaut.
L'Italie ne fera pas défaut parce qu'elle est dans l'euro, parce que la BCE est là. Elle reçoit aujourd'hui 21 milliards d'euros d'aide de l'Europe qui avait été négociée sous Draghi. La France ne fera jamais défaut, on peut dire ça, Xavier Timbaud.
Bah oui, on peut dire ça. Enfin, je veux dire, ce que dit Philippe, contient du vrai. C'est-à-dire que oui, il y a des limites. Et le Royaume-Uni nous montre qu'il y a des limites. Mais après, il faut quand même aller un cran plus loin dans l'analyse. La politique budgétaire du Royaume-Uni, elle est extrême. Elle n'est pas la même que celle de la France.
C'est
la
situation plus entre nous deux.
Oui, voilà. La situation monétaire du Royaume-Uni n'est pas du tout celle de la France. La France, elle est dans la zone euro, avec une banque centrale qui a des moyens qui sont considérables par rapport à ceux du Royaume-Uni. La balance courante de la zone euro n'a rien à voir avec la balance courante du Royaume-Uni, qui est largement déficitaire. Donc, voilà, le Royaume-Uni a choisi de s'isoler. De renoncer aux partenariats potentiels de solidarité que lui apportait l'Union européenne parce que ces partenariats étaient accompagnés de conditions qui lui paraissaient insupportables, comme de se soumettre à la Cour européenne de justice, mais ou de se soumettre aux autorités budgétaires de la zone euro. La France, l'Italie n'ont pas fait ce choix. La France et l'Italie ont décidé, oui, d'abandonner un tout petit peu de leur souveraineté pour regagner une souveraineté collective. Alors, ce choix-là, on peut pas dire, ça n'a pas d'impact et ça fait que la France est au même niveau que le Royaume-Uni.
Je suis totalement d'accord pour dire que l'euro est un parapluie par rapport à ce
qu'il dure.
Tant qu'il dure, mais en même temps.
Il y a un auditeur qui dit quand l'Allemagne sera totalement en récession à cause de la
crise énergétique,
que fera l'euro ?
Mais en même temps, Philippe, quand on est sur un petit bateau dans la tempête ou dans un gros bateau, on peut dire, oui, tant que le gros bateau dure, on va mieux passer la tempête que ceux qui sont dans le petit bateau. Alors c'est sûr que quand on sera sur les canaux de sauvetage, parce que le gros bateau aura coulé, on sera dans la même situation que ceux qui sont sur le petit bateau.
Voire pire.
Mais on n'est pas dans cette situation-là. On est sur le gros bateau. Et la tempête, on peut la passer.
La question de la limite, c'est toujours le vrai sujet. En tout cas, hier, la Banque de France s'est inquiétée de la volatilité des marchés, puisqu'on a vu quand même tous les taux longs qui ont remonté, et a appelé Bercy à ne pas laisser filer les dépenses.
Avec une belle phrase au passage, qui est « il ne faut pas ajouter de la volatilité à la volatilité ». C'est quand même, c'est vrai que c'est quand même un conseil. Je ne sais pas qui avait oublié cet adage et se disait « je vais rajouter de la volatilité à la volatilité dans la situation où on est ». Mais merci la Banque de France de nous rappeler ces bons conseils. C'est sûr que ça va aider.
La réalité aussi est que c'est le dollar qui monte et qui écrase les autres devises. Et là, on est à 1 euro égale 95 cents. Les deux lectures possibles pour le budget. On est un peu dans la continuité de ce qu'on vient de dire. Je vous les soumets, Sylvain Rébi. Alors, je les ai résumés de la manière suivante. Il y a ceux qui vont dire « c'est vraiment de la fuite en avant des dépenses, de la dette, des déficits ». Alors à Bercy, on se rassure en disant « regardez, notre copie 2023 est pas tellement pire que la 2022 ». Sous-entendu, ça va pas trop mal. Mais enfin, la 2022, c'est pas le Pérou. Et donc, c'est du quoi qu'il en coûte sans fin. Et les limites existent et on va finir par les toucher. Ou alors ceux qui disent « non, non ». Il continue à avoir la bonne stratégie en Europe qui consiste à amortir au maximum le choc que nous vivons. Pour éviter justement que les boîtes aillent au tapis, que les gens aillent à Pôle emploi. Parce que repartir à moins 20 mètres sous le niveau de la mer, c'est quand même beaucoup plus compliqué et beaucoup plus coûteux que si on redécolle à 2-3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans ces deux lectures, laquelle vous sciez, Sylvain ?
Regardez ce qui se passe.
Après, si vous en avez une troisième...
Je vais me contenter de choisir dans ce que vous me proposez. Regardez ce qui se passe depuis 2015. 2015.
Pourquoi depuis 2015?
Mais parce que c'est en 2015 que la France est passée à une politique de l'offre.
Oui.
Quand Valls était Premier ministre et Macron ministre de l'économie et des finances. Cette politique de l'offre, elle a porté ses fruits. On le voit aujourd'hui, parce que la France, finalement, se débrouille mieux que beaucoup de ses voisins, particulièrement l'Allemagne. Parce que la croissance française, qui était toujours à la traîne des autres, elle est un peu meilleure, je dis pas qu'elle est bonne, elle est un peu meilleure que celle des autres. Parce que toutes les décisions qu'on a prises, de quoi qu'il en coûte, qui ont été favorables aux entreprises, ont été favorables à l'emploi, ont été favorables à l'investissement. Donc, je ne regarde pas devant en essayant de deviner ce qui va se passer, je regarde derrière ce qu'on vient de faire, et je dis que si on continue... Si on poursuit une politique de l'offre telle qu'on l'a faite depuis quelques années...
C'est très demande, là, la politique. Hein. Elle est très demande, quand même.
Elle est très demande, mais enfin, il y a quand même une bonne part d'offre qui reste
Il y a une composante.
Assez vaillante. Oui, oui.
Un peu de production, c'est à peu près le seul élément pour 2023. Enfin, c'est déjà pas mal.
La moitié de ce qui était annoncé,
ça. Oui, mais enfin, oui, ça sera sur deux ans. Enfin, bon, on peut pas non plus demander... On peut parler du MEDEF.
Ils ont pas voulu dépasser 5% de déficit, pas être comme les Anglais à 9, et donc ils ont fait ce... Ils ont repoussé les droits de succession et allongé la suppression de la CVAE pour être dans les 5%.
Bon, donc je pense que cette politique de l'offre, il faut absolument la poursuivre. Elle porte ses fruits à la fois sur l'emploi, sur la croissance. Et c'est pas le moment aujourd'hui de l'interrompre. Parce que c'est grâce aux entreprises que la France se porte bien aujourd'hui.
Alors si je vous dis, Xavier Thimbault, l'objectif est de sombrer moins bas pour mieux rebondir. Un peu quoi qu'il en coûte, puisqu'on est prêt à mettre 45 milliards d'euros bruts et environ 17 milliards d'euros nets dans un énorme bouclier tarifaire. Vous me dites, oui, c'est ça la lecture du budget qui est légitime.
Oui, enfin, en tout cas, votre dialectique, c'est la bonne dialectique, hein, effectivement. Il y a des choix à faire, on est dans une situation compliquée. Et en tout cas, cet élément-là dans l'équation, il apparaît. Hein, c'est-à-dire que, oui, le Covid a bien montré qu'effectivement, c'était pas si simple que
et
ça.
Et là, c'est pas Covid, là.
Non, c'est pas Covid. Mais alors, justement, parlons un peu de la situation, parce que la Banque de France dans ces dernières semaines, enfin même dans cette dernière semaine, a dit beaucoup de choses dont certaines sont extrêmement contestables. Quand la Banque de France dit oui, on fait une politique de la demande et ça alimente l'inflation.
Oui.
Oui, mais ça c'est une énorme erreur d'interprétation. C'est pas ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un bouclier tarifaire. Alors ça coûte très très cher. Hein.
Oui.
Ok, donc ça fait du déficit. Très, très, très cher.
C'est de la sauvegarde
trop,
de pouvoir
d'achat. Trop, trop cher, sans doute. Et effectivement, un bouclier ciblé aurait coûté deux fois, trois fois, quatre fois moins cher s'il avait été bien ciblé. Mais par contre, on ne peut pas dire que ça alimente l'inflation, ça.
Ça l'a réduit.
Ben oui, ça l'a réduit. Et c'est précisément... Mais oui, mais Nicolas...
Oui, je sais bien que ça l'a...
Dans votre dialectique, il s'agit effectivement de pouvoir rebondir en étant moins marqué par la situation de crise qu'on est en train de traverser. Mais en fait, surtout, ce que l'on veut... C'est éviter d'enclencher une boucle prix-salaire qui obligerait à avoir des politiques monétaires restrictives. Si on s'en tient à la dernière expérience de ce qui s'est produit, c'est-à-dire au début des années 90, des politiques restrictives pendant 5 à 10 ans qui, elles, peuvent enclencher une récession, une montée persistante du chômage et des conséquences qui seront négatives, avec des conséquences aussi sur l'offre. Parce que malheureusement, comment on fait une politique monétaire restrictive? On monte les taux d'intérêt. Et ça, c'est pas une bonne politique de l'offre de monter les taux d'intérêt. Ben... N'importe quel chef d'entreprise vous le dira. Donc... Oui, on veut éviter ça, et donc c'est pas des politiques de demande qui alimentent l'inflation, c'est des politiques anti-inflationnistes.
Qui préservent la Banque centrale de durcissements trop durs et trop
qu'elle fasse du déficit, et que la Banque de France se dise déficit, inflation, c'est un réflexe qu'on peut pardonner à un étudiant de première année en économie. Mais quand on, soyons sérieux quand même. Quand on est en train de juger de la politique économique du gouvernement, dans une situation difficile, où les choix sont quand même assez complexes, et où on ne peut pas se contenter de critiques à l'emporte-pièce, là, ce que dit la Banque de France, c'est ajouter de la volatilité à la volatilité. Donc, il ne s'applique pas à la maxime qu'il devait appliquer à tout le monde.
Philippe Manière, votre lecture par rapport aux lectures que j'ai proposées, on peut... J'en parlais avec Emmanuel Le Chip qui disait, oui, c'est vrai que finalement, ces boucliers, ces aides, c'est un peu de la politique de l'offre, parce que ça préserve l'ensemble du tissu. Et c'est peut-être le meilleur choix aujourd'hui.
Ça, c'est une belle rhétorique quand même, Philippe.
Ouais, non, c'est compliqué parce que moi, je suis frappé quand même. Sylvain disait, par exemple, quelque chose sur la politique de l'offre. Moi, je suis complètement d'accord. On a basculé, il y a quelque chose d'important.
On a qu'une minute,
c'est passé en France.
Je vous arrêterai,
mais... Bah ouais, alors, donc je vais pas pouvoir dire grand-chose. En 2015,
ça
a basculé. et on est sur une politique de l'offre et qui est persistante. Et moi, c'est une des rares choses que je mets au crédit de ce qui s'est passé depuis 5-7 ans. C'est vraiment une conviction, je crois, que l'exécutif a fini par endosser vraiment. Donc ça, c'est très bien. En revanche, tout ce que vous avez décrit, c'est exactement le contraire. C'est une politique de la demande. Il y a eu un peu de politique de l'offre dans la préservation anti-Covid quand on a soutenu les entreprises. Bon, pour l'essentiel, ça a été de soutenir une capacité de dépense. D'ailleurs, ça s'est bien vu. Dès que les gens ont pu dépenser, ils ont dépensé.
Qui baisse de 20 milliards,
c'est... Non, mais ça c'est pas la même chose. Vous parliez du Covid. Bien sûr, les impôts de production, c'est de l'offre. Ça, c'est pas contestable un instant. Alors, après, moi, je suis complètement d'accord avec Xavier sur le fait que, contrairement à ce que dit la Banque de France, oui, c'est anti-inflationniste. Bien sûr, le bouclier est anti-inflationniste à court terme. Il faut quand même pas oublier que ça ne marche que si les prix de l'énergie baissent et qu'au bout d'un moment, on peut enlever le bouclier d'énergie et qu'on retrouve les mêmes prix. C'est de moins en moins probable. Donc, on est en train simplement, comme d'habitude en France, de mettre la poussière sous le tapis. En janvier, les prix vont augmenter.
Non, c'est le bon débat, celui-là.
On marque une pause.
C'est le bon débat, celui-là.
On marque une pause.
Oui, mais c'est celui-là, le bon débat.
Si l'an prochain, on est les plus mauvais élèves de la classe pour avoir été les meilleurs cette année à crédit, je suis pas sûr qu'on y gagne.
C'est une vraie question. Et je vous invite, à ce sujet-là, à lire le papier passionnant de Gilles Berset sur telos.eu.com, qui nous explique qu'effectivement, on recule les problèmes pour qu'ils sautent un peu plus loin. Et il affirme que nous aurons à terme une inflation qui sera supérieure à celle de nos voisins, alors que pour l'instant, elle est très nettement inférieure.
Il n'y a pas de magie en économie.
Eh voilà, free lunch, tout ça.
Voilà.
Economy stupid, hein, c'est ça. On marque une pause, à tout de suite, et puis on parlera de... Ben justement, à part la CVAE, est-ce qu'il faut en faire plus pour les entreprises? Je n'entends que des chefs d'entreprise me sortir leur facture d'énergie. C'est lunaire. Dans certains secteurs, c'est franchement totalement lunaire. Après, on a le courroux de Bruno Le Maire face au MEDEF. Moi, ce matin, j'ai considéré que Bruno Le Maire avait plutôt raison sur ce coup-là. Hein.
Bruno Le Nerf.
Bruno Le Maire.
Le Nerf.
Ah, le Nerf. Bien joli. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Philippe Manière, président de Veille-Solis Communication, qui a publié Le Pangolin et l'ISF, Comment le monde d'après nous rend tous fous, aux éditions de l'Observatoire. Sylvain Rébille, président d'Orientis, l'été Kousmi. Et Xavier Tabot, directeur principal de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. J'ai plein de réactions. Il y a Sam qui m'écrit, si ce budget avait été présenté par un gouvernement de gauche, on aurait crié à la gabegie et à l'incompétence. C'est sans doute vrai, ça. Giorgio, une forte hausse des taux, c'est le meilleur moyen de contraindre notre état dépensier à tailler dans les dépenses inutiles. Ah oui, ça, le jour où on a le couteau sous la gorge, l'incident de crédit.
J'aimerais que ce fût vrai.
Ben, attendez que le 10 ans français soit à 5,5, vous allez voir. Là, on va devoir. Ben, vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là?
C'est la logique économique, mais c'est pas la logique politique, quoi.
Si on flippe un peu, on met 2 points de CSG, 2 points de TVA, et c'est réglé en 24 heures. Pas compliqué, hein. Mais alors après, bon, on croit que rien ne va nous arriver, écrit Robert.
Nicolas Truss.
Rien ne va nous arriver.
On mettra 4 points de chômage aussi, hein.
Ah ben.
Mais oui, mais.
Ah ben ouais.
Ah oui, mais entre l'incident de crédit et le chômage.
Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas trop souhaiter l'incident de crédit.
Mais personne ne le souhaite, il n'y a rien de pire.
Simplement, on peut le pronostiquer.
Il y a des gens qui le souhaitent, en tout cas.
Robert m'écrit, on croit que rien ne va nous arriver avec un déficit structurel permanent, un déficit commercial chronique, une incapacité à équilibrer nos comptes courants. On y croit vraiment, écrit-il. Et puis il me met aussi.
Ça me paraît très juste, ça, quand
même. Un ami de Philippe, oui, je pense.
On prête à la France, il continue, parce qu'elle a une administration fiscale efficace, c'est vrai. On a la réputation d'être l'un des pays au monde qui lève le mieux l'impôt.
Oui, oui.
Ah ben oui. Et on a l'euro, bien sûr.
On est très bon aussi pour gérer la dette. Si vous voulez, c'est normal, on a les spécialités. On a inventé la TVA. Donc, si vous voulez.
Oui,
c'est glorieux.
Oui, les malades sont les mieux soignés.
La France a inventé la TVA, c'est son plus beau produit d'exportation. Elle recouvre l'impôt comme personne et elle gère merveilleusement la dette. C'est des points de satisfaction très considérables. Enfin, ça dit aussi un tout petit peu quelque chose de ce pays. Si vous voulez, on se spécialise dans la capacité à éviter la faillite alors qu'on fait des bêtises par ailleurs.
Et on fait du très bon vin pour oublier tout ça.
Finalement.
Mais il y a des idées qui pourraient sembler très françaises, comme la taxation des super-profits, qui commencent à arriver dans la bouche de gens comme Philippe Lane, le chef économiste de la BCE. Ça, c'est assez inattendu. On était resté sur quoi, là, avant de faire la pause, là, tout le monde...
Alors on en était à est-ce que c'est bien raisonnable d'espérer arrêter la crise en dépensant plus ? Pour faire simple.
L'amortir. Pour mieux rebondir.
Et on avait fini, je vous rappelle, sur il n'y a pas de magie, there is no free lunch. Bon. Et je pense que fondamentalement, c'est ça la question. Et moi, je me mets à la place des politiques. Je comprends qu'ils se disent on va dépenser plus, et puis comme ça, ça fera moins mal, et puis comme ça, on sera réélu. C'est super logique comme appréhension de leur point de vue. Mais ce n'est pas raisonnable. C'est-à-dire que quand il vous tombe une météorite sur la tête, vous pouvez essayer de courir sur le côté, mais vous ne pouvez pas éviter tous les ennuis.
Je ne suis pas d'accord, en fait.
C'est pas gérable. Attends, je finis juste. Oui. c'est on peut faire ce qu'il faut pour qu'il y ait le moins de gens possible qui souffrent et peut-être même choisir que souffrent moins ceux qui sont les plus fragiles. Tout ça est complètement légitime, mais on ne peut pas par décret empêcher que quand il y a une météorite qui vous tombe dessus, ça fasse mal. C'est ça la folie française, c'est de penser que le roi guérit les écrouelles. On ne peut pas, en dépensant toujours plus, éviter au moins une partie, voire une partie assez substantielle, des ennuis qui viennent d'un fait générateur exogène. Et encore une fois, ceux qui essayent de le faire, ça finit mal. On ne peut pas être dans le déni constamment. Donc on est un peu, à mon avis, dans cette heure de vérité. J'espère que ça se passera bien, entendons-nous bien. Je ne suis pas en train de dire il faut que ça fasse mal, etc. Je dis simplement qu'on ne peut pas continuer à croire jusqu'à la fin des temps, contrairement à ce que disait Sylvain. Ce n'est pas parce qu'on dit un truc depuis 20 ans qu'il est toujours faux, parce qu'on a jamais prouvé qu'il était vrai. Si je vous annonce par exemple que ce soir il fera nuit et que je le dis toutes les minutes, pendant très longtemps j'aurai l'air d'un clown et puis un jour il fera nuit. Et bien c'est exactement ce qui est en train de se passer. On ne sait pas quand, mais il y a un moment, le soleil va se coucher. Donc je pense qu'il n'est pas raisonnable de dire que parce qu'on prie, parce qu'on dépense, le soleil ne se couchera pas. On peut tout organiser pour que ça se passe bien, on peut limiter, etc. Mais ce n'est pas vrai que c'est... c'est fatal. On ne peut pas l'éviter en dépensant plus et en faisant ce que ne font pas les autres parce que c'est nous et qu'on est géniaux. Ça n'existe
beaucoup
pas.
Beaucoup font quand même beaucoup en ce moment. Enfin, un peu plus. Hein, mais
oui, mais il faut voir d'où ils partent aussi, hein, quand même.
Je ne sais pas si vous voulez répondre, Sylvain, à ce que vient de dire Philippe Meunière. Après, moi, j'aimerais demander à Xavier Tambo ce qu'il pense de la thèse de Gilles Berset, quand même. Parce que vous n'étiez pas d'accord, mais...
Je pense que la comparaison avec le soleil qui se couche et la France qui fait faillite n'est pas recevable.
Non. Mais bon, et puis, ce plaidoyer pour les horloges arrêtées, ça ne peut pas fonctionner, quoi.
Oui, une horloge à l'arrêt a raison une fois tous les deux fois par jour.
Par jour, elle a raison.
Mais se couche assez régulièrement.
Je dirais juste que ce gouvernement travaille pas pour être réélu, puisque Emmanuel Macron ne peut pas l'être. Donc on peut pas lui dire t'es en train de faire n'importe quoi pour essayer d'être réélu. C'est pas son cas et donc c'est pas le cas de ce gouvernement.
Lui, non.
Oui, lui et les autres. Enfin, je ne pense pas qu'Elisabeth Borne cherche à être réélue.
Bruno Le Maire a peut-être des intentions. Donc,
résumé, les politiques ont envie que ça se passe bien pour eux. C'est ça que je veux dire. Peut-être. Peu importe qu'ils soient rééligibles, s'en seront d'autres, peu importe.
Oui, mais enfin, ça change quand même beaucoup de choses.
Pas
de
tellement, non.
Le fait d'essayer d'être réélu.
Si Chirac et Mitterrand avaient été particulièrement courageux à leur deuxième mandat parce qu'ils n'allaient pas se représenter, on s'en serait aperçu. Donc, c'est pas corrélé directement à la rééligibilité du président.
Alors, une question de fond, et elle a été soulevée tout à l'heure. Est-ce que c'est pas reculer pour mieux sauter, Xavier Tambo? Ça, c'est quand même un vrai sujet. Est-ce qu'on n'est pas en train de dépenser pour attendre encore 5 minutes, monsieur le bourreau?
Alors, c'est ça le sujet. Ouais. C'est ça le sujet. Et la réponse, c'est de dire, évidemment, il n'y a pas de free lunch. Et donc, ce que vous faites aujourd'hui aura des conséquences demain qu'il faudra aussi envisager et assumer. Mais on peut choisir comment on payera son lunch, puisqu'il n'est pas gratuit. On peut choisir soit d'avoir de l'inflation de façon persistante. Ce que dit Gilles Berset, c'est que l'inflation qu'on évite aujourd'hui...
On l'aura plus tard,
mais on peut ne pas être d'accord avec
et
ça.
Et en pire, d'ailleurs.
Et on peut dire, en fait, non, c'est que l'inflation qu'on n'a pas aujourd'hui, ça sera ça d'inflation de moins demain, parce que le problème, c'est la fameuse...
Boucle
prix salaire. L'inflation, c'est pas le fait que les prix d'énergie augmentent, même s'ils augmentent de façon durable. C'est pas ça, l'inflation. Ça fait pas d'inflation. Ça fait une hausse des prix, mais c'est pas ça, l'inflation. L'inflation, c'est un processus continu d'augmentation des prix.
D'auto-alimentation.
Et précisément, si on n'enclenche pas ce processus, on ne l'aura probablement pas demain. Et en revanche, qu'est-ce qu'on va avoir? Puisqu'on aura évité ça et qu'il n'y a pas de repas gratuit, ce qu'on aura, c'est plus de dette publique. Et c'est là qu'il faudra payer cette dette publique. Donc il n'y a pas de repas gratuit. Personne ne dit que tout va se passer sans douleur et sans aucune conséquence. Et c'est de la magie. C'est pas de la magie. C'est je transforme la possible inflation d'aujourd'hui en futur dette publique.
Oui, mais on peut.
Et demain, il faudra
deux.
Que je gère cette dette publique.
On peut surtout avec les deux. C'est ça la question.
On peut finir avec les deux.
Si l'énergie redescend pas et qu'au bout d'un moment on peut pas faire autrement qu'avoir des augmentations salariales qui viennent avec la hausse des prix persistantes et que la boucle s'installe, on aura la dette et la boucle. Donc c'est ça le risque.
Pour qu'il y ait une inflation l'année prochaine à cause des prix de l'énergie, il faut pas que les prix de l'énergie restent élevés.
Absolument.
Il faut qu'ils continuent d'augmenter.
Absolument. Non, il suffit qu'on arrête le bouclier tarifaire.
Ah oui, on arrête le bouclier tarifaire.
C'est quand même au programme.
Et non, parce qu'on peut cibler progressivement.
Oui, mais il y a déjà 15% de hausse en janvier.
Oui, 15% de hausse.
Mais où sont les prix du pétrole, Philippe, aujourd'hui?
$83 le baril.
Voilà, donc ils ont déjà baissé par rapport aux 30 centimes à la pompe. Et donc en janvier, on va arrêter le bouclier tarifaire sur les 30 centimes à la pompe. Enfin, vous êtes passé devant une
station service. Non, sur la pompe, oui, sur le gaz.
Vous êtes passé. Non, mais d'accord, mais
sur
vous êtes
le gaz, on n'aura pas une rebaisse des prix.
Alors qu'est-ce qu'on va faire sur le gaz en 2023, en 2024?
On va limiter la hausse à 15%.
Bon, on va limiter la hausse, mais qu'est-ce qu'on va faire aussi? on va enclencher un mouvement d'économie d'énergie, de production d'énergie alternative. Enfin voilà, c'est ça la stratégie. Alors on peut dire c'est risqué, ça peut ne pas marcher, vous n'arriverez pas à produire les substitutions que vous voulez ou les économies que vous voulez dans les temps qui sont nécessaires. Mais en fait, on peut pas renoncer a priori sur ce plan-là et dire, ben non, on aura de l'inflation de toute façon, et donc il faut ne rien faire aujourd'hui et laisser tout ça exploser. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Gilbert Sette, et je pense que
dans l'autre sens, pardon, juste un point.
Alors,
Alain Minc disait même, pour aller dans le sens de Xavier, parce que c'est deux thèses qui sont
vous me flattez.
Moi, je trouve. Voilà. Non, mais oui, c'est ça. Je vous le laisse. Alain Minc disait dans Les Échos, je crois, vendredi dernier, quelque chose qui est assez intéressant. Il disait, grâce au bouclier, les entreprises françaises vont être moins obligées, c'est ce que vous disiez Xavier, d'augmenter les salaires pour rattraper les prix que vont être obligées de le faire leurs partenaires des autres pays, qui, elles, vont être confrontées à des revendications salariales élevées, parce que l'inflation dans certains pays, c'est 8, 10, 12, 15, et donc forcément... les
25% dans les Pays-Bas.
Si on se trouve pendant un an, 18 mois dans cette situation-là, on récupère en fait 8% de compétitivité prix. Donc lui, il dit que c'est une dévaluation déguisée. Ça mérite d'être creusé, mais ce que je veux dire, c'est que dans le sens que vous disiez, Xavier, il y a même des arguments pour dire on est en train de faire un truc génial. Moi, je pense que la thèse de la France est la seule à faire ça et elle est géniale. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Ça s'est parfois avéré, pas toujours.
Elle est loin d'être la seule. Les États-Unis ont un plan anti-inflation.
Dans ce volume-là, dans ce quantum-là.
L'Italie a un plan qui ressemble beaucoup. L'Espagne a un plan qui ressemble énormément. L'Allemagne vient de mettre en place la même chose.
L'Espagne, elle ne paye pas l'énergie le même prix. Les États-Unis, ils ont la monnaie mondiale. D'autres pays comme l'Allemagne qui font des boucliers.
L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne
d'un niveau de dette différent.
Sont en train de faire la même chose. Donc,
Sylvain,
c'est pas une idée si sotte et grenue que ça.
Non, mais j'ai même donné un argument de l'autre sens. Il y a une question.
Au-delà de la baisse des impôts de production, certes étalée sur 2 ans, j'entends que des chefs d'entreprise s'inquiéter sur leur facture d'énergie et le fait qu'ils ont le sentiment d'être à côté du bouclier tarifaire, calibré pour les ménages. Est-ce que vous considérez qu'il y a un énorme trou dans la raquette ?
Il y a un énorme trou dans la raquette, parce que aujourd'hui, moi je vois très bien, on est en train de renégocier nos contrats d'énergie. Il y a des augmentations de 200%. C'est considérable. Et en fait, alors Emmanuel Macron a dit il y a quelques jours, surtout ne signez pas. Moi, j'interroge Bercy. Que faut-il faire qu'est-ce qu'on attend? On signe pas aujourd'hui, si on peut. Mais qu'allez-vous faire pour nous faciliter ces signatures? Est-ce que vous allez dire à EDF, à Total Energy, baissez les prix pour les entreprises, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez nous rembourser quelque chose? C'est compliqué, mais c'est un sujet... on ne peut pas demander que l'État nous aide constamment. Encore une fois, on n'est pas là pour demander des subventions, des aides. Mais c'est vrai qu'on a des sujets de la volatilité qui s'ajoutent à la volatilité. On a des problèmes énergétiques importants aujourd'hui, ça coûte très cher aux entreprises. Et nous, on n'est pas encore très consommateurs d'énergie, mais pour les boîtes qui le sont, c'est énorme.
Les électro-intensifs ont un dispositif particulier quand même, plus dire qu'il n'y a rien.
Peut-être, mais en tout cas, les boîtes de base comme nous, on n'en a pas. Et ça vient s'ajouter à quoi? Ça vient s'ajouter, alors j'en ai parlé souvent, beaucoup d'entreprises ont des prêts garantis par l'État qui doivent rembourser aujourd'hui au pas de course, en 4 ans. C'est beaucoup. Et c'est beaucoup quand vient s'ajouter une crise, une probable récession, un coût de l'énergie qui augmente. Et ça fait quoi tout ça? C'est pas que les boîtes vont faire faillite, c'est qu'elles ne vont plus investir. En fait, c'est ça le problème. Parce que Olivia Grégoire disait, non, mais les boîtes vont s'en sortir. Mais oui, les boîtes vont s'en sortir. Sauf que cet argent qui est remboursé à l'État au pas de charge, à 4 ans, mais 4 ans pour des prêts qu'on n'a pas demandé,
fallait pas les prendre.
Mais non, mais on en avait besoin parce qu'on nous avait fermé de façon autoritaire, donc on a pris ces prêts, mais aujourd'hui, on nous demande de les rembourser en 4 ans, ça n'a pas de sens. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On les rembourse, on a commencé au mois d'avril, on les rembourse. L'énergie augmente, qu'est-ce qu'on fait? On la paye. Mais cet argent, il n'y a pas d'argent magique. Cet argent ne va pas dans les investissements, c'est tout. Il va au remboursement de la dette, il va au paiement d'une énergie chère, il ne va pas dans l'investissement. Et ça, on va le payer dans les années qui viennent. Quand les entreprises n'auront pas investi à cause de ces problèmes qu'on identifie aujourd'hui, eh bien, on viendra pleurer. Et là, le chômage repartira à la hausse. Donc, il faut, d'une façon ou d'une autre, faire quelque chose pour que les entreprises puissent continuer d'investir.
Alors, je vous pose la question différemment, mais compte tenu de la de l'ultra-violence du choc. Je ne parle pas du signal prix, petit signal prix qu'il faudrait laisser, mais là, ce n'est pas un signal prix quand on fait x 100%, enfin x 2. Compte tenu de l'ultra-violence du choc, est-ce qu'il faudrait rajouter des éléments? Je sais que Bruno Le Maire doit rencontrer les énergéticiens pour voir si, comme il a fait avec les banquiers et les assureurs, et là, bientôt, les sociétés d'autoroutes.
Les énergéticiens, enfin, comme vous savez, le plus gros d'entre eux, qui est nationalisé ou en voie de l'être, n'a pas des comptes si florissants que ça.
Mais lui, il a payé des cadeaux. Il a payé de 7 à 8 milliards d'euros.
Oui, mais on est capable de
lui
demander plus encore. Donc, il a payé très cher. Moi, je crois pas
qu'on
soit dans une situation.
Personne ne veut le diriger.
Facile. Je vois pas très bien comment on peut aider les entreprises. Alors, moi, je veux quand même dire un mot sur les PGE. C'était facultatif. La plupart des gens qui en ont pris n'en avaient pas besoin et ils ont bien fait de le prendre parce que c'est de l'argent gratuit, ça donnait un coussin. Tout le monde l'a observé, je crois d'ailleurs que le FCE avait écrit quelque chose là-dessus. Il y a eu une augmentation très considérable de la trésorerie des entreprises, rappelé le PGE, qui a été durable, pérenne. Beaucoup de gens ont décidé, puisqu'ils en avaient l'option, de différer le remboursement. Mais ça correspondait pas à un besoin pour la plupart des entreprises. C'était une sorte
les
de
entreprises
de sécurité.
Qui étaient fermées.
Après,
que ce soit les hôtels, les restaurants, les boutiques.
Oui, enfin,
on était fermés. On était fermés. Ouais. On n'avait plus de chiffre d'affaires.
D'accord. Ça s'est rattrapé largement après. On vous a payé votre personnel.
Mais jamais de la vie.
Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas dire, pendant la première demi-heure, qu'on a fait un énorme travail de protection des entreprises et dans la demi-heure suivante qu'on ne l'a pas fait.
Mais on a fait un énorme travail de protection des entreprises parce qu'on les a fermées.
Moi, je dis que les entreprises ne peuvent pas rembourser leur PGE.
Et les entreprises aujourd'hui peuvent rembourser leur PGE, mais c'est au détriment de l'investissement.
Ça, évidemment, c'est moi aussi, je peux vous dire, si j'avais plus d'argent, je dépenserais plus. C'est à la portée de tout le monde.
Le soleil va se coucher, Philippe.
C'est l'argent de l'État.
C'est l'argent de l'État. Le soleil va se coucher. Vous aurez raison une fois de plus, comme d'habitude.
Non, je disais simplement tout à l'heure,
c'est pas seulement de ne pas l'avoir compris, puisque le soleil va se coucher.
C'est pas parce que pendant longtemps.
Je vais rembourser mes PGE, puisque le soleil va se coucher.
Vous pouvez rembourser
même demain.
Ceux qui ne peuvent pas rembourser les PGE, souvent, c'est ce qu'on appelle les entreprises zombies.
On n'a pas dit qu'elles ne pouvaient pas rembourser. Vous n'écoutez pas ce que je vous dis encore une fois. J'ai pas dit qu'elles ne pouvaient pas rembourser. J'ai dit qu'elles remboursaient, mais que c'était au détriment de l'investissement.
C'est ce que vous disiez. Je dis moi que celles qui ont du mal à rembourser sont des entreprises qui généralement ont gagné 3 ans grâce au PGE. Quant aux autres, si on investissait l'argent du PGE qui était sur 1 ou 2 ou 4 ans, ça se saurait. C'est pas très raisonnable d'investir l'argent du PGE. C'est pas de l'argent fait pour investir le PGE.
Je ne parle pas des PGE qui servent à investir. Je parle
des
remboursements de ces PGE qui empêchent l'investissement. C'est quand même clair.
Ben non.
Bon. Bruno Le Maire a réagi un peu courroucé, agacé. C'est fort de café, a-t-il dit. Et j'aimerais savoir comment vous vivez la scène. Je considère que sur ce coup-là, il a plutôt raison. Parce que le MEDEF dit, ils veulent tout, le MEDEF. Ils veulent qu'on baisse les impôts de production, plutôt en une fois pour la CVAE, mais qu'on fasse moins de déficit et qu'on réforme l'État. Mais si on pouvait éviter de réformer les retraites, il y a un moment, Bruno Le Maire dit, il y a des choses qui sont un peu incohérentes dans le communiqué.
Et qu'on fasse pas de taxes sur les super-profits.
Bien sûr, alors bon, on verra ce qui se passera. Ce ne sera pas de la fiscalité sur les super-profits. C'est ce qui va être mis au niveau européen par rapport à un prix plafond de l'électricité où ceux qui ne produisent pas au gaz mais avec d'autres sources, eh bien effectivement, contribueront au profit de la redistribution entre les États. Et donc, Bruno Le Maire dit, si vous voulez qu'on fasse moins de déficit, dans ces cas-là, j'arrête les baisses d'impôts de production. Je me mets à sa place, oui. Vous voulez qu'on réforme l'État et pourtant, vous ne me suivez pas sur la réforme des retraites. Et donc, il était un peu... Et d'ailleurs, la FEP s'est plutôt désolidarisée du MEDEF, considérant
carrément,
que... les contraintes 2023 sont réelles. Là où je tire mon chapeau à Bercy, c'est que vous devez sortir une feuille de route budgétaire avec des chiffres précis, uniques, pas des fourchettes. Allez sortir une fourchette de croissance, une cible de croissance, une cible d'inflation, une cible de taux à 10 ans, avec le contexte que l'on vit, c'est quand même chaud. Xavier Tabot, cette passe d'armes, là, elle vous fait sourire ou vous considérez que le MEDEF est un peu mou ou pas très franc du collier? Parce que la CPME aussi était plutôt du côté AFEP, Bruno Le Maire.
Non, je pense que la réponse de Bruno Le Maire au MEDEF est assez juste et assez bien portée.
Oui,
voilà. C'est un argument très simple et très clair. Une bonne punchline, on dirait, aujourd'hui. Après, ça vaut ce que ça vaut. Je veux dire, on peut pas, sur ça, évacuer tout ce que dit le MEDEF.
Mais bien sûr, c'est juste la fin du jour, on en résumer, parlera pas demain. Mais...
Voilà, on peut pas résumer la politique budgétaire. Si vous êtes pas content, je vous supprime la ligne qui vous concerne, quoi. Parce que, on est dans une forme de clientélisme inversé qui serait un peu déplaisant, en tout cas, dans un régime démocratique. On va pas dire OK, laissez faire pour les autres parce que toi t'as une petite réduction d'impôt, on va t'indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation et donc tais-toi parce que si jamais tu protestes, je vais arrêter ça. Bon, OK. La punchline est bonne, je pense que le point est compris. Après C'est pas un débat démocratique, on va dire.
Non, mais c'est un, voilà. C'est un bon. Enfin, c'est comme le col roulé de Le Maire, c'est le truc du jour et on passe à autre chose.
C'est ça.
À moins que vous vouliez parler de la cravate du ministre. Philippe Manière.
C'est gentil de m'appeler Bruno Le Maire. Pas complètement, en fait. Oui, c'est anecdotique. Oui, chacun est dans son rôle.
Vous n'avez pas de
cravate. Il y a la punchline. Voilà, c'est ça. Si j'avais un col roulé, je serais. Alors là, je serais. Bon, non. Sérieusement, chacun est dans son rôle. C'est de la punchline. C'est très bien. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois que derrière, ça mérite quand même de creuser un peu parce que cet argument de dites-moi où il faut que je coupe, moi, ça fait 35 ans. Je me rappelle,
Bruno Le Maire reproche au MEDEF de ne pas participer à la réflexion des baisses,
Il y a 30-35 ans, je me rappelle déjà avoir écrit quelque chose sur le sujet le directeur de cabinet.
C'est votre côté horloge arrêté, ça.
Qui me disait, mais non, mais parce que c'est éternel, c'est un très mauvais argument qu'on vous sort tout le temps. Oui, j'ai lu votre article avec intérêt. Est-ce que je commence par dérembourser les béquilles ou plutôt les ambulances? Est-ce que vous voulez qu'on arrête de faire des HLM? Dites-moi par où il faut commencer. Ça, c'est une grande classique. La vérité, c'est qu'il y a d'autres pays qui ne sont pas des pays où les gens marchent nu-pieds dans la rue et où ils mangent à leur faim. Enfin, c'est des pays où ils mangent à leur faim, et c'est des pays où il y a beaucoup moins de dépenses publiques que chez nous. Donc, ce sont des options qu'on peut examiner calmement derrière les punchlines. Typiquement, créer 10 500 postes de fonctionnaires, est-ce que c'est bien nécessaire?
Et ils vous disent que c'est des gendarmes, des policiers,
c'est ça,
et
bien sûr, justice. Évidemment. Mais très bien, moi je suis pour plus de gendarmes, etc. Mais supprimer les 10-257 agences qui servent à rien et qui ont un coût de coordination absolument énorme. Parler avec n'importe quel industriel, Sylvain faisait allusion tout à l'heure à la difficulté d'être chef d'entreprise. Moi, j'ai parlé l'autre jour avec un de mes clients qui me disait une partie importante de son boulot, c'est de faire se parler des deux administrations. Il a besoin de l'autorisation des deux, il faut qu'elles se parlent.
C'est l'enfer.
Il n'y a pas de rendez-vous avant 6 mois. Donc, vous voyez, la solution à ça, c'est simple, c'est moins d'administration. Et il se trouve que ça serait moins de coûts. Donc, moi, je comprends que Bruno Le Maire réponde ça au MEDEF. Bien sûr, il est dans son rôle. Et bien sûr que les entreprises qui, à la fois, sont contentes d'avoir le crédit d'impôt ceci, crédit d'impôt cela, sont peu recevables à se plaindre qu'on ne soit pas plus responsable sur les finances publiques. Mais quand vous regardez attentivement ce que raconte Geoffroy Roux de Bézieux, quand vous regardez le discours du MEDEF, qui n'est pas irréprochable, il y a quand même toujours l'idée qu'il faut plus d'efficacité, moins de bureaucratie. Mais pardonnez-moi, c'est comme ça qu'on va arriver à boucler. C'est-à-dire qu'on peut faire des dépenses opportunes. Sans partir dans le mur, à condition de bien choisir les dépenses.
Il y a un truc qui est vrai.
Et il y a un truc qui est vraiment incontestable, c'est que l'État en France est beaucoup trop important, ne serait-ce que par comparaison avec ceux de nos voisins qui marchent le mieux. On parle ici de la Suisse à peu près tous les matins. Prenons un exemple au hasard, la Suisse.
Oui, alors il y a un truc qui est vrai, c'est que lorsque vous consultez l'ensemble de ceux qui réfléchissent à ces sujets de niveau de dépenses, d'efficacité de dépenses, qu'ils soient aux affaires, qu'ils soient élus, qu'ils soient experts, qu'ils soient économistes, ceux qui osent se mouiller sur la petite liste à la Prévert des choses qu'il faudrait faire, ils sont pas très nombreux. Agnès Verdier le fait.
Oui, moi je suis
même ou on n'aime pas, mais Agnès Verdier.
Moi je suis à votre disposition, hein, parce que.
Oui. François Eckhall l'a fait de manière limpide il y a un an.
Bien sûr.
Et là on avait la liste, milliard par milliard, poste par poste, pour aller chercher 10 milliards par an.
Et là-dessus, ni Bruno Le Maire, ni Geoffroy Roux de Bézieux auraient eu des arguments très sérieux à leur opposer. Geoffroy Roux de Bézieux aurait été pour, et Bruno Le Maire, à mon avis, en privé, aurait dit la même chose. Le problème, c'est qu'il faut le courage d'aller tailler. Vous avez des gens qui sont là-dedans, vous avez des gens à qui on a raconté qu'ils avaient des jobs pour la vie. C'est des jobs qui servent à rien et qui même détruisent la capacité de créer la richesse du pays. Mais voilà, les couper, c'est politiquement compliqué. Mais c'est là qu'est la solution, diminuer l'État administrant.
Oui, mais diminuer l'État administratif, ça veut dire se séparer d'un certain nombre de gens, ça veut dire obtenir l'accord des syndicats, parce que si vous faites ça sans l'accord des syndicats, tout le monde sera dans la rue. Et aujourd'hui, en France, je suis désolé, c'est pas le gouvernement qui est bloquant, ce sont les syndicats. Parce que si on avait des syndicats intelligents à l'allemande, eh bien on n'aurait pas cette administration qu'on a aujourd'hui. C'est bien de dire il faut couper ceci et cela, ben coupons-le, mais on ne peut pas le couper parce que les syndicats sont vent debout, parce que ces salariés et les autres d'ailleurs seront dans la rue, qu'il y aura une surenchère, et que... Mais bien sûr, mais c'est malheureusement ça, j'ai bien vu comment ça se passe.
Si on arrête les réformes parce qu'il y a des gens dans la rue, il ne faut pas parler de réformes. Hein.
Faisons ces réformes, mais ni la droite, ni la gauche, ni l'extrême droite demain ou l'extrême gauche demain s'ils sont au pouvoir, ne feront ces réformes parce qu'on ne peut pas en France aller contre les syndicats. C'est aujourd'hui trop compliqué. Donc je suis désolé, il y a beaucoup d'idées, Agnès Verdier.
C'est le seul pays au monde où on ne pourrait pas réformer pour cette raison.
Mais non, ce n'est pas le seul pays au monde. C'est juste que il n'y a pas beaucoup de pays qui réforment. Ils ont tous commencé avec une administration moins que la nôtre.
Je pense que la résistance sociale est très très forte.
Bien sûr.
Si on veut pas pousser aux régimes spéciaux, c'est parce qu'on se dit qu'on se prend les électriciens gaziers en pleine crise de l'énergie, que c'est juste pas grave.
Voilà.
Et moi, c'est un exemple local.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts pour réduire le poids de cette administration, mais ce n'est pas si simple. Il ne suffit pas de le décréter.
Il y a
qu'on économise 10 milliards par an. On est d'accord pour le faire. Mais
je vous invite à relire c'est un cas évidemment très local, donc c'est probablement pas duplicable au niveau national. Mais c'est les 15 années du maire de Plancuc à côté de Marseille. Il est arrivé dans l'une des villes les plus endettées par rapport à sa population et qui avait haut niveau de prélèvement par rapport à sa population. Il s'est dit c'est plus possible. Alors c'est une petite ville évidemment. Il a externalisé des quantités de trucs. Eh ben il a totalement inversé les prélèvements obligatoires et les niveaux de dépenses.
Mais regardez, donc,
Alain
Lambert dans l'Orne avait fait ça, David Lisnard à Cannes a des résultats dans ce domaine. Enfin, c'est pas du tout inaccessible.
Je
demande pas qu'on foute les gens dehors, Sylvain, ne caricature pas ce que je dis. Mais c'est très simple, vous avez tous les ans des gens qui partent à la retraite et vous avez des créations de postes ou pas. L'État, sans loi, sans passer devant le Parlement, peut décider qu'il va créer plus de postes ici ou là, qu'il va fermer une agence, qu'il va pas recruter dans tel membre de l'État dont l'utilité devient contestable. Je ne dis pas que c'est facile, je dis qu'on ne peut pas nous dire que ça n'est pas faisable.
Mais
parce
moi,
que tout le monde dans le monde l'a fait et parce que c'est un besoin fondamental.
Bien sûr, mais ne pas remplacer les gens qui partent à la retraite, au bout du compte, ça enlève du pouvoir aux syndicats. Parce qu'ils ont moins de syndiqués, simplement, et qu'ils ont moins de rentrées, qu'ils ont moins de pouvoir, c'est tout. Donc il ne suffit pas de dire on ne renouvelle pas les gens qui partent à la retraite, ce serait trop simple. Encore une fois, il faut qu'on change ce pouvoir des syndicats, il faut qu'on lutte contre ce pouvoir des syndicats. Moi, je milite pour que tout le monde soit obligé d'être syndiqué, parce que si tout le monde était syndiqué, eh bien les syndicats extrémistes n'auraient plus leur place. Il faut que tout le monde soit obligé d'être syndiqué, comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Et si vous et moi, on était syndiqués, eh bien, les syndicats extrémistes n'auraient plus leur place. Ils n'auraient plus la majorité. La plupart des salariés ne voteraient pas pour ces mesures
extrêmes. Il y a des domaines de la sphère publique où les syndicats sont plus qu'ultra-puissants. Enfin, quand vous parlez avec des profs, le management de l'éducation nationale, c'est les syndicats. C'est pas le management normal. C'est pour ça que la volonté, justement, de faire un management dans l'école avec de l'autonomie, c'est une montagne à gravir. Et c'est pourtant l'un des premiers points qui caractérise les pays bien classés dans PISA. C'est l'autonomie des établissements, la liberté de recrutement, la liberté de licencier et éventuellement le salaire au mérite.
Marcel Boiteux, qui était président d'EDF, un jour répondait à quelqu'un qui lui disait « Vous avez un directeur général, j'imagine qu'il jouit d'une assez large délégation, que vous lui donnez... » Il dit « Évidemment, moi c'est EDF, c'est très simple, c'est moi le président, mais j'ai un directeur général qui fait vraiment tourner la boutique pour les soins. » Alors il dit « Évidemment, quand ça devient très très grave, on rend le pouvoir à ceux qui l'ont vraiment, c'est-à-dire les syndicats. » Voilà. Marcel Boiteux, président d'EDF, c'est pas mon invention.
La caisse, le comité d'entreprise des électriciens gaziers a survécu à la scission EDF-GDF.
Oui, mais non. C'était quand même il y a longtemps, mais alors sur ce sujet-là, pour les raisons qu'on vient de dire, rien n'a changé.
Les horloges se remettent à tourner, en fait.
Mais rien n'a changé sur ce sujet-là.
C'est pas vrai, par exemple, de dire que les choses ne changent pas.
On a vraiment fini.
Quand on regarde, très bien, mais.
Non, mais.
Je vous ai écouté patiemment.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. On connaît que. 20 secondes.
Mais 20 secondes, enfin, je veux dire, prenons la SNCF. La SNCF d'aujourd'hui a été réformée.
Ça a été dur, mais on y est arrivé.
Ça a été dur, mais il y a eu une réforme. Le système de retraite de la SNCF a été réformé.
Je ne parlais pas de la SNCF.
Non, mais d'accord, mais moi je parle d'une chose qui se passe. Je regarde aussi les horloges qui bougent.
Et là, c'est vrai, la SNCF, ça bouge.
Alors, des choses, donc,
comme chez Orange qui continue à épurer les statuts fonctionnels
des PTT. Tiens, vous n'avez pas parlé de France Télécom. Ça a tellement changé que ça a changé de couleur.
On n'a pas parlé non plus de la pyramide de Toutankhamon et des encombrements sur le périphérique.
On a fini.
Simplement, puisqu'on parlait d'EDF, qu'à EDF, le pouvoir des syndicats est très considérable et que c'est vrai depuis la libération.
Ça change, c'est vrai. Après, il y a une énorme inertie. Chez Orange, on continue à écluser l'héritage du fonctionnariat des PTT. C'est pas totalement fini, mais bon, et à la SNCF, les gens sous statut, ils vont rester. Bah, ça va du temps. Mais ça a bougé. On a fini.
On est d'accord.
Je voulais parler avec vous des baisses de dépenses, parce que l'OFC, on a besoin de vous pour y arriver. Bon, c'était Philippe Manière aujourd'hui, Sylvain Rébi et Xavier Tabon. On se retrouve demain à 9h.
On revient.